Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voilà devant ta parole. Nous allons la méditer ensemble, nous allons échanger. Ta parole sera exposée, mais il y aura beaucoup de subjectivité. Eh bien, Seigneur, je te prie de guider toutes choses, de corriger ce qui doit être corrigé, de maintenir ce qui doit être maintenu. Mais que ce ne soit pas seulement une habitude d'apporter une méditation, mais pour que l'objectif soit l'édification de l'Église, à commencer par l'orateur. Merci Seigneur par avance pour tout ce que tu as préparé pour nous. En ton sein, nom Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Alors, la lettre de Jude. Donc, ça fait quand même plusieurs semaines, on va dire quelques mois, que je voulais partager avec vous cette lettre, la petite lettre, mais riche en enseignements. Elle est d'actualité. Je vous invite vraiment à la lire, à la relire, et vous verrez qu'elle est pleine d'enseignements pour l'Église d'hier, d'aujourd'hui et de demain, si le Seigneur permet que l'Église continue. Comme je dis toujours, dans tout enseignement, il y a beaucoup de subjectivité, donc il y a beaucoup de choses qui viendront de, personnellement de moi, il faut le reconnaître, je vous le dis. Il ne faut pas tomber dans l'extrême de dire « Ah, ça y est, c'est le Saint-Esprit qui parle ». Non, 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 il y a de l'homme aussi qui parle. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit fait son œuvre, je dirais, de nettoyage, et il va parler à chacun, il va corriger. Ben voilà, ben je vous soumets cette réflexion sur cette lettre en espérant modestement qu'elle parle à chacun de nous, qu'elle nous interpelle s'il le faut. Mais l'essentiel, c'est qu'elle m'a parlé, donc j'ai envie vraiment de partager le contenu avec vous. La lettre de Jude. Jude, on l'appelle aussi Judas. Hein, on peut l'appeler Jude, Judas. Alors Jude se présente comme le frère de Jacques. Et je l'ai fait tout à l'heure, je vous ai précisé que pourtant c'est le frère de Jésus. Il ne s'est pas présenté que le frère du Seigneur de Jésus, mais le frère de Jacques. Il y a une certaine humilité quand il s'est présenté. Je ne suis qu'un humain parmi les humains. Je ne suis qu'un frère de Jacques qui est un humain. Non, quant au Seigneur Jésus, c'est autre chose. Donc je ne vais même pas me dire frère de Jésus. Cette lettre serait donc l'œuvre d'un autre frère de Jésus, qui, selon Marc 6, verset 13, verset 3, Marc 6, 3, portait effectivement ce nom. Alors, si je lis Marc 6, verset 3, je vous le lis, donc vous verrez. Alors, je vais lire à la fin du verset 2. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui venaient ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, qu'on appelle aussi Jacob, des fois, dans la Bible, de Joseph, et de Jude, et de Simon? Vous voyez, là, on voit dans ce passage, on nous cite les quatre frères de Jésus. Les quatre frères de Jésus qui sont Jacob, qu'on nomme aussi Joseph, qu'on nomme aussi des fois dans certaines traductions Josette ou Josès, Simon et Jude, qu'on appelle aussi Judas. Aucun d'eux n'était disciple de Jésus avant sa mort. Il faut le savoir, c'est après sa résurrection qu'ils sont devenus disciples. Ses frères semblent avoir hésité au début à croire en lui. Donc, je vais vous lire Jean, chapitre 7, quelques versets. Mais alors, il faut savoir que les frères sont convertis après sa résurrection. Donc, si on lit l'évangile de Jean, chapitre 7, vous pouvez lire du verset 1 jusqu'à 9. Mais je ne vais pas tout lire. Juste quelques passages pour que vous sachiez qu'ils ne croyaient pas en lui au début. Hein? Après cela, je commence par le verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Verset 33. Et ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Et verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est très intéressant de le savoir. Il faut attendre la résurrection du Seigneur, d'accord? Et quand ils sont partis dans la chambre haute, se réunir pour prier qu'on voit qu'ils l'ont accepté. Parce que certainement, il s'est présenté après la résurrection. Et je vous lis dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, et je vais lire juste verset 14. Tous, dans la chambre haute, hein, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. C'est très important de préciser, avec les femmes. C'est un message d'aujourd'hui. Les hommes, avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Donc on voit qu'ils ne croyaient pas en lui. Après sa résurrection, il s'est présenté à eux. Ils ont cru en lui. Ils se sont mis dans la chambre haute. Ils étaient d'un commun accord dans la prière. Donc, par la suite, ils l'ont vu ressusciter d'entre les morts. Ils sont devenus disciples du Messie. Ils sont tous devenus des serviteurs du Seigneur par la suite. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5, je vous lis aussi. L'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres et les... N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres et le frère du Seigneur et ses fasses. Donc on voit bien qu'ils sont devenus disciples au point de devenir des exemples pour l'apôtre Paul. Mais je tiens à apporter un petit commentaire sur ce passage quand même de 1 Corinthiens. Oui. Il est dit, Julie, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Là, c'est une précision. Dans d'autres traductions, on lit, n'avons-nous pas le droit d'amener une femme, enfin une sœur femme? En fait, l'apôtre Paul est en train de dire, les disciples du Seigneur, les apôtres, servaient le Seigneur en couple avec leur femme. Oui, il le dit là. C'est-à-dire une épouse chrétienne. Ça veut dire que les apôtres partaient en mission avec leurs épouses. Ainsi, les autres apôtres, et spécialement les frères du Seigneur, donc il y avait Jacques le mineur, et Jude, et Pierre aussi, qui étaient pères de famille. Les plus renommés d'entre eux étaient tous mariés, et leurs femmes les accompagnaient dans leur voyage missionnaire. Si Paul, pour des raisons qu'il a exposées dans 1 Corinthiens, chapitre 7, à renoncer à l'état du mariage, ça reste l'exception. Il n'en revendique pas moins le droit. Chose dont le catholicisme, historiquement, on en a fait une règle. Donc je tenais à préciser cela. D'après cette lettre, Jude connaît bien les Écritures aussi, dans cette lettre-là, et connaît l'Ancien Testament parce qu'il s'y réfère. Donc, c'est une petite présentation avant de parler du contenu. C'est très intéressant. Il faut savoir que l'épître de Jude développe l'histoire de l'apostasie. Reniement de la foi, abandon de la foi chrétienne, mauvaise doctrine, si vous voulez. Et ça qui commençait déjà à l'origine de l'Église. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça existait déjà. C'est une apostasie surtout morale. Surtout morale, dans le paysage chrétien. Une apostasie qui doit nous alerter et nous garder éveillés pour la dénoncer aujourd'hui. Ça nous concerne. Dans cette lettre, une mise en garde, une accusation contre les prédicateurs considérés comme corrompus. Prédicateurs corrompus qui rendront des comptes devant Dieu. Qui ont influencé cette église à qui Jude a écrit. Cette apostasie morale, ou ce dérèglement, si vous voulez, essaie de changer la grâce de Dieu en dérèglement, en pratique immorale. On dit que le Seigneur pardonne. Alors je continue à pécher, de toute façon, je vais demander pardon. Quelle insulte. Cette immoralité, comme l'appelle Jude, dérèglement. Il l'appelle dérèglement, n'est pas quelque chose qui vient du monde. C'est pas quelque chose qui vient du monde, mais quelque chose qui s'est introduit par de faux frères, soit qui se développe au sein même de l'Église, comme le dénonce Jean, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Voilà l'apôtre Jean ce que nous dit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Cette lettre de Jude, trois parties. On va dire la première partie du verset 1 à verset 4, c'est quelque sorte ce sont des instructions qu'il nous donne. Il va dans le cœur de sa lettre, c'est-à-dire du verset 5 au verset 19, où là, il y a une mise en garde. Une mise en garde contre l'apostasie. Et la partie 3, on va dire les derniers versets, versets 20 à 25, là, ce sont des recommandations qui s'adressent aux chrétiens qui ont accepté de payer le prix. Alors, quelles sont ces instructions dès le début de la lettre de Jude? La lettre est adressée, il est comme il l'a écrit, à ceux qui ont été appelés, aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Le premier enseignement, nous avons vu qu'il se présente comme le frère de Jacques. On a déjà la crainte. Je ne le présente pas comme frère du Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu le Fils. C'est Dieu. Donc je ne le présente pas. Je ne suis son disciple. Je suis qu'un. Je suis le frère de Jacques. Et Jacques, rappelez-vous, c'est en fait c'était la référence de l'Église à l'origine. Ce n'était pas Pierre à l'origine. Même Pierre allait prendre conseil chez Jacques. Chez Jacques était le pilier de l'Église à Jérusalem. Et il dit, il écrit à ceux qui ont été appelés, aimés, en Dieu le Père, est gardé par Jésus-Christ. Dès le départ, Jude nous donne le cheminement du chrétien, lequel nous devons marcher. Appelés. Nous sommes tous appelés et nous avons reçu le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Mais rappelons-nous, le Seigneur a dit, appelé, mais on doit être élu. C'est pourquoi Jude il dit, à ceux qui sont appelés, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, aimés en Dieu. D'accord ? C'est-à-dire, non seulement ils découvrent l'amour de Dieu, mais eux-mêmes, ils montrent l'amour. D'où l'amour de l'Église, il est indispensable. Une Église sans amour, il n'y a pas d'Église. Donc quand on est appelé à vivre, à découvrir l'amour de Dieu, et à transmettre l'amour, Dieu est amour. Et gardé pour Jésus-Christ. Et c'est cet amour qui nous garde jusqu'au point final. C'est le cheminement simple du chrétien que Jude il est en train de nous dire, c'est-à-dire, on passe de l'appel à l'élection. Si on se dit seulement appelé chrétien, mais par le nom, mais dans notre vie, dans notre marche, dans notre communion, il n'y a pas d'amour, mais on se ment. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a que l'appel. Jude nous rappelle, la lettre s'adresse aux appelés, aimés en Dieu et gardés pour Jésus-Christ. C'est dans cette réalité, dans ce cheminement que Jude exhorte les chrétiens à combattre pour la foi chrétienne. Dans ce cheminement, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de maturité spirituelle, même si ce mot n'existe pas dans la Bible. Maturité spirituelle. On dit « fait à la stature de Christ », jusqu'à que Christ soit formé en nous. Mais on traduit par maturité spirituelle. Il ne faut pas se contenter de l'appel en devenant vulnérable face aux attaques du diable et du monde, qui est sous la domination du diable et des attaques de notre propre chair, elle ne cherche qu'à prendre le dessus. C'est pourquoi Jude n'hésite pas à exhorter, alerter et mettre en garde face au danger qui guette l'Église, celui des faux enseignements. Justifier l'irréparable, justifier le péché par, soi-disant, le pardon de Dieu. Dès que le péché est montré par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à l'abandonner, pas à le justifier. Faire le contraire, ce sont des fausses doctrines évoquées par des faux docteurs, des prédicateurs corrompus dont la vie est indigne du Seigneur, dont la mauvaise conduite est le reflet de leur mauvais enseignement, le reflet de leur fausse théologie. Jude a préféré différer le message d'origine, le message théologique qu'il voulait qui voulait échanger avec l'Église autour du salut commun pour se presser de leur écrire, pour les avertir, pour évoquer le danger qui cherche à s'immiscer dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager, exhorter à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Combattre pour la foi, en discernant, en dénonçant les faux prédicateurs, les faux enseignements et les faux enseignants qui font de la grâce de Dieu une occasion pour continuer à pécher. Voilà le cœur du sujet. Qui ne dénonce pas le péché, il y a en quelque sorte un compromis avec le péché. par ces dérèglements, qu'on peut traduire aussi par débauche, ces prédicateurs trahissent le Seigneur Jésus-Christ en devenant ses ennemis. Par là, Jude confirme l'exhortation de l'apôtre Paul aux Galates, parce que l'apôtre Paul a dit la même chose aux chrétiens de Galatie. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, c'est-à-dire de continuer à pécher. C'est une leçon pour nous. Il faut qu'on apprenne à ne pas nous endormir avec des habitudes que personnellement j'appelle l'églésianisme, mais d'être en alerte permanente, en apprenant à discerner les dangers qui guettent l'Église du Seigneur. Et ça, ce n'est pas le rôle seulement de l'ancien ou du pasteur, c'est le rôle de chacun de nous. Nous devons nous alerter mutuellement. Sinon, on finira par tomber. Alors, la mise en garde de Jude, c'est une mise en garde contre, je relis, ces hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Changer la grâce de notre Dieu en dérèglement. Nous ne pouvons pas être chrétiens et s'auto-satisfaire et ne pas être dérangés par le péché. N'importe quel degré. Parce qu'on aime bien mettre les degrés. Non, le péché. Du moment que ma conscience m'interpelle, je dois mettre à genoux, demander pardon et abandonner mon péché. Et si je n'ai pas la force, implorer la force du Seigneur. Certes, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, verset 1. Mais Galates 5, 13 nous dit, juste la suite, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Le verset 5, 1 de Galates nous dit, verset complet, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Comment ? Alors, qu'est-ce qu'il dit par la suite ? C'est-à-dire, le Christ nous appelle à la liberté, mais tout de suite, il écrit, il dit, « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ce que nous croyons liberté, en fait, c'est le contraire. La liberté, c'est se libérer de soi-même, pas la liberté de faire ce qu'on veut. C'est la liberté, il parle de la liberté libérée du péché. Il y en a qui comprennent ça, ou peut-être pas, pour justifier leur péché. Dites, non, liberté, ça veut dire que je fais ce que je veux, de toute façon, je suis gracié. Non, c'est liberté libérée du péché. Nous sommes appelés, petit à petit, à être libérés du péché. C'est ça la véritable liberté, pas la liberté de faire ce qu'on veut. Jean 8, dans l'évangile de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus on connaît le Seigneur, plus on connaîtra la vérité. Oui, et encore la communion. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà la réelle liberté, quand on est libre en Christ.
Esclave.
Voilà. Esclave de Christ, c'est une liberté.
Esclave du péché aussi.
Comment ?
On peut être esclave du péché.
Oui, mais de toute façon, en tant que nature charnelle, le péché est là, nous sommes esclaves de lui, mais le Christ est venu pour nous libérer de cet esclavage. Devenir esclave de Christ, c'est la véritable liberté, parce que nous sommes libérés du péché. Tout à fait. Mais il faut demeurer, comme il dit, demeurer donc ferme.
Oui, oui.
Vous
voyez ? Persévérer.
Persévérer en étant ferme. Et en Christ, nous pouvons avancer, découvrir cette liberté libérée du péché. Jude avertit, exhorte l'Église à ne pas recevoir des faux enseignements. Et les faux enseignements, on peut en trouver partout. Physiquement, sur Internet, tout ce qu'on veut. Qui cherchent à changer la grâce de notre Dieu en dérèglement au point de renier notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous avez péché, ce n'est pas grave, Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne. Mais est-ce que quand on pêche, est-ce qu'on a cette conscience qui nous interpelle au point qu'on est mal ? Cette phase-là, on l'enlève ? On dit non, non, c'est culpabilité. Mais comment je peux réaliser que le péché est mauvais si ma conscience ne me culpabilise pas ? Dans ce cas-là, c'est pas grave. Il suffit juste d'apprendre des mots et je vais dans ma chambre, je dis pardon Seigneur et j'avance. Si je ne suis pas culpabilisé, si je ne suis pas à genoux, si je ne suis pas en train de dire Seigneur, j'ai fait mal, quel est le sens du péché alors ? Vous voyez ? En fait, j'ai l'impression qu'on fait simplifier les choses et on fait ce qu'on veut. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean, chapitre 1, verset 6. Oui. La Bible, elle est là pour le... Voilà. Si ou quand on part dans des raisonnements, la Bible elle nous dit, voilà, non. C'est que les choses sont claires. On est à une époque où l'on accepte des pratiques et des conduites dans les églises sans la moindre remise en question que la parole de Dieu dénonce clairement. On applique tellement de pratiques. Et j'en ai vu. Au point où je demandais, mais c'est normal ça? Ah, mais non, c'est l'époque. Mais excusez-moi, je vais rater. Il y a quelque chose dans la Bible, je vais gommer. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai l'impression. Ah oui. Des conduites qui deviennent même des sujets de rigolade et de plaisanterie. Comme si c'était rigolo la souffrance de la crucifixion du Seigneur. Ça doit nous faire pleurer. Surtout si ça concerne la vie dans l'Église. De telles églises ne pourront pas régner avec le Seigneur. Là, je reviens à la parole de Dieu. Car le Seigneur est saint et pur et son Église est sainte et pure. Le Seigneur a comparé la vie de son Église à la vie conjugale, qui est le reflet et l'enseignement visible de cette relation intime entre le Seigneur et son Église. Éphésiens, chapitre 5, je lis versets 25 à 27, trois versets. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La parole de Dieu nous dit à propos de la vie conjugale, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Mais c'est rien d'autre que le message de l'Église. Depuis que le mariage existe, c'est le message visible de la réalité de l'Église, entre Christ et son Église. Ce que nous appliquons dans le couple, c'est exactement ce que nous devons vivre dans l'Église. Il n'y a rien du tout, seulement l'enseignement humain historique à travers le mariage est venu pour nous expliquer, voilà ce que Dieu prépare comme vie de couple entre le Seigneur et son Église. Le mariage est considéré même comme un mystère. C'est comme ça que c'est écrit. Un mystère tellement il englobe dans sa signification le mariage céleste entre le Christ et son Église. Éphésiens, chapitre 5, versets 31 et 32, je lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, vous voyez, l'apôtre Paul qui le dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez, entre les deux. L'homme quittera, je l'ai déjà évoqué avec vous, il n'est pas dit la femme quittera. C'est très important ça. L'homme quittera, pourquoi pas la femme quittera? Le mariage est un sacrifice. L'homme doit se donner entièrement à sa femme et à son foyer. En disant cela, Dieu sait que contrairement à la femme, qui en général se dévoue totalement pour son foyer, l'homme doit apprendre à se couper de beaucoup de choses. Y compris de ce qui peut être le plus dur, c'est-à-dire son propre milieu, à commencer par sa propre famille, pour construire une nouvelle famille avec son épouse. Encore une fois, c'est le message de l'Église. Le mari aime sa femme, car l'un n'existe pas sans elle, car il n'existe pas sans elle. Le mari qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que le Seigneur aime l'Église. Ce qu'on dit du mari, c'est le Christ qui aime l'Église au point de donner sa vie pour elle. Mais dire cela, ne pas oublier l'épouse. Le rôle de l'épouse, c'est aujourd'hui, on l'a abandonné. On a créé une égalité homme-femme. On dit, non, la femme elle, qui n'est pas active ne vaut rien dans la société. Au point quand même, les enfants, qu'est-ce qu'elle fait votre maman? On a honte de dire à la maison. Mais non, il n'est pas utile dans la société, donc il est inutile. Mais d'après la Bible, le rôle de l'épouse, c'est l'exemple et le rôle même de l'Église. Elle est un soutien vital. Et c'est elle qui détient la vie familiale, la vie de l'Église. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'épouse, de maintenir cette vie sous l'autorité du Seigneur. Il est question aussi de soumission. La femme doit être soumise à son mari. Il suffit de lire Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 24. Soumise à son mari qui lui-même est soumis à Christ. Et le mot soumission, femme soumise, c'est soumission. C'est-à-dire, le mari, il est dans une mission. Et cette mission, c'est quoi? C'est obéir au Seigneur, donc la femme est sous la mission du Seigneur. Donc, en obéissant au mari qui est chrétien, la femme, il est sous l'autorité du Seigneur. Ramenons ça à l'Église qui doit être sous la soumission, l'autorité du Seigneur. C'est pourquoi nous avons l'obligation de maintenir cette cohésion, cette communion entre nous sous l'autorité du Seigneur, parce qu'en le faisant, nous sommes sous l'autorité du Seigneur. Si nous réalisons ceci, nous comprendrons que si dans le foyer, le mari et la femme cherchent à avoir une harmonie, qu'il y ait la vie, qu'il y ait la paix, ben dans l'Église, on doit chercher la même chose. Le Seigneur lui-même, il a dit, je viens, j'ai donné la vie. J'amère la paix. Maintenant, en retour, qu'est-ce que vous me dites? Et si on est dans une querelle, il n'y a pas cette paix, il n'y a pas cet amour entre nous, où est-ce qu'il y a la vie de couple? Si nous réalisons au fond de nous-mêmes ce mystère de la grâce et de l'amour, on ne peut pas accepter des faux enseignements qui justifient une vie immorale sans que notre conscience nous interpelle et crée en nous une angoisse qui nous pousse à la confession et à la repentance. Voilà la clé que le Seigneur nous donne. En toute situation, il n'y a pas de fatalité. La confession, la repentance, et c'est reparti. Et ça, on trouve dans aucune autre religion. Sous un faux enseignement de la grâce et de l'amour, on va culpabiliser les consciences. On va chercher par un mauvais enseignement à ne pas dénoncer ce que la Bible dénonce. On va jouer sur les consciences pour petit à petit, accepter le paysage chrétien et accepter dans le paysage chrétien ce que la parole de Dieu a toujours dénoncé. On peut prendre tellement d'exemples qu'une prédication ne suffit pas pour tout évoquer. La vie chrétienne est une vie de paix, d'amour, d'assurance, d'espérance, mais qu'on trouve qu'en Christ. Mais cette vie dénonce les pratiques du monde. L'Église juge le monde. L'Église est un exemple du monde. L'Église, elle doit être ce doigt qui dit au monde, ce que vous faites, c'est mal. Mais l'Église ne doit pas se compromettre avec le monde. Si nous ouvrons la porte et le monde rentre dans l'Église, ben, il y a adultère. Ça veut dire que la femme trompe son mari. Ça veut dire que l'Église trompe Christ. Il nous appelle à la fidélité. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mes frères et sœurs, si nous sommes rejetés, c'est un bon signe. Si nous sommes critiqués, si on dit qu'on est une secte, ce que vous voulez, eh ben, c'est la garantie que nous sommes sur le bon chemin. Si nous sommes, super, ah là là, on vient chez vous parce qu'on est bien, etc., chrétien ou pas, là, il faut se méfier. Il y a un problème. Faisons attention à ne pas nous conformer au monde en calquant sa vie sur la loi du monde, qui appelle bien mal et mal bien. Viendra le jour où beaucoup de discours on ne pourra plus tenir. On ne pourra plus dénoncer. Parce que la loi pourra s'appliquer en nous dire « Vous ne respectez pas le vivre ensemble. » Donc ça veut dire on nous pousse à déchirer quelques pages de la Bible pour l'objectif suprême, le bien-être, le vivre ensemble. C'est ça la subtilité. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Je ne fais que lire l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10. Oui, ça va se jouer dans les détails. Qui tiendra la route? La vie chrétienne est une vie joyeuse, une vie de paix et d'espérance, mais aussi une vie de dépouillement et de sacrifice. Il y a un prix à payer. Sacrifice permanent et dont les conséquences présentes et futures, ça sera la glorieuse vie éternelle. Tout dépend de ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Jude recommande aux chrétiens de s'éloigner des faux enseignements qui transforment la grâce de Dieu en un permis de péché. Au point de le minimiser. Mais non, c'est un petit péché, ça, c'est pas grand-chose. Il leur recommande même de s'éloigner de ces prédicateurs. Il leur recommande de s'éloigner de ces prédicateurs, considérés comme des rebelles à l'ordre établi par Dieu. En somme, des falsificateurs et des traîtres à l'enseignement divin. Pour justifier ses propos, Jude cite des exemples terrifiants tirés de l'Ancien Testament. Je ne vais pas tous les citer, l'Ancien Testament. D'abord, il cite la rébellion des Israélites dans le désert. Ils se rebellaient contre qui ? Ben contre Dieu, à travers Moïse. Oui, la rébellion. Ils voulaient leur bien-être, au point de regretter l'Égypte. Et bien cette rébellion les a amenés à mourir dans le désert, sans atteindre la terre promise, à cause de leur désobéissance, leur idolâtrie. Rappelons-nous du veau d'or, le bien-être, la satisfaction personnelle, le compromis. Nous voulons te suivre, Moïse, mais réponds à nos besoins. Il y a des choses que nous voulons, nous aussi. Oui. Un certain homme voulait à manger, mais il voulait plus de viande, il voulait voir Dieu, le veau d'or, etc. Il a fallu attendre la deuxième génération pour entrer dans la terre promise. Qu'est-ce que nous voulons ? Deuxième exemple, et après il y a l'exemple des anges rebelles. Et là, je vous invite à lire Genèse chapitre 6. Il s'agit des anges rebelles qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines et qui ont été jugés en conséquence. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire ? Toute relation en dehors de ce qui est la norme divine, tout ce qui est la norme selon Dieu, c'est-à-dire homme-femme, relation entre un homme et une femme dans une vie conjugale, est considérée comme des règlements. C'est ça. Et là, aujourd'hui, c'est presque tolérance. Pas grave. Hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, je suis même perdu, on parle transgenre, on parle, voilà, je suis complètement perdu. Et il y en a même maintenant des pasteurs homosexuels ou des pasteuses, je ne sais pas comment appeler ça. Bon, oui. Et on trouve ça normal. Il n'y a rien de pire que l'Église commence à trouver ça normal au point de ne plus en parler. Jude l'évoque en rappelant ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Dire cela, ce n'est pas rejeter l'autre. Je rappelle encore une fois, quand on parle en tant que chrétien, nous rejetons le péché et non le pécheur. Oui, il ne faut pas tout mélanger, parce qu'on dit cela, de tout de suite, regardez, rejetons-nous. Dénoncer le péché, ça c'est, l'Église doit être comme ça, un exemple. Mais par contre, Dieu aime le pécheur. Nous n'avons pas à le rejeter, quoi que ce soit, c'est une créature de Dieu. Et troisième exemple, il parle de la destruction de Sodome et de Gomorre. On est dans l'apogée du péché. Là, c'est vraiment, on est... Oui. Et regardons notre monde aujourd'hui. Non seulement le monde ne dénonce pas aujourd'hui, mais l'autorise. Jude va très loin, vous voyez, donc il n'est pas... Il est parti des faux enseignements, parti du deuxième titre, il dit, on a transformé la grâce comme un permis de péché. On commence petit et on finit mal. Ces exemples nous montrent clairement la haine que Dieu a pour de telles pratiques qui n'ont aucune place dans la vie d'Église. Aucun compromis possible. Et c'est là que ça va jouer l'écrémage. Aucun compromis possible. À travers l'histoire, ça a commencé toujours par un petit compromis et l'Église dévie. Par contre, l'Église qui a refusé le compromis, ça c'est le risque. Elle a payé le prix à travers l'histoire. Mais elle a hérité la couronne de justice. Vous voyez ? Aucun compromis possible. Chacun de nous devons nous examiner pour ne pas heurter le cœur du Seigneur et qui risque de porter un jugement sur l'Église d'une manière générale et sur le chrétien d'une manière individuelle. Il ne faut pas transiger avec le péché, mes frères et sœurs. Le jugement de Dieu est quotidien. Le Seigneur veille sur son Église et il n'acceptera pas que son nom soit souillé, car nous sommes appelés à la sainteté en dénonçant le péché. Rappelons-nous que la Bible nous le dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu ici-bas et là-haut. Il suffit de lire Hébreux, chapitre 12, verset 14. En somme, sommes-nous conscients? Rappelons-nous l'appel sans l'élection. Nous sommes appelés et élus. Et entre les deux, il y a un cheminement de transformation, de sanctification. On découvre l'amour de Dieu et on transmet l'amour dans l'Église. L'appel sans l'élection, c'est l'échec assuré. L'appel à lui seul ne nous amène pas à l'objectif final, celui de régner avec notre Seigneur. L'appel tout seul ne nous permet pas de faire partie de l'Église qui ira à la rencontre de son époux et de son Seigneur à la fin des temps. Pour chacun de nous, voici le message du Seigneur. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça sera la vie éternelle. Mais vaincra, qui tiendra droit, pas de compromis. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 3, verset 21. J'arrive à la fin. Le véritable chrétien est un chrétien brisé. Un chrétien brisé en permanence. Pas de lui-même, mais il cherche tellement le Seigneur que le Seigneur le fait passer par le cheminement du brisement pour le restaurer. Il le garde dans l'humilité tout en découvrant l'amour de Dieu. C'est un chrétien repenti, et s'il le faut plusieurs fois. Il n'y a pas qu'une seule repentance, plusieurs fois on peut se repentir. C'est un chrétien qui porte les fruits de la repentance, comme la parole nous dit. C'est un chrétien simple, un chrétien qui déteste, qui hait le péché, quel que soit son degré. C'est de cet enseignement que l'Église a besoin, et non pas d'un faux enseignement, qui insulte et heurte le cœur de Dieu, car véhiculé par des prédicateurs, se disant docteurs, que Jude considère comme... Alors là, on est gentil, mais Jude, voilà comment il considère ses prédicateurs. Là, j'ai l'impression qu'il est énervé. Alors, il dit, comme des écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau, apportés par les vents. Des arbres d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alors il termine sa lettre en s'adressant aux chrétiens. Vous voyez, il y a toujours la joie à la fin. Il dit, voilà les instructions. Voilà maintenant, attention, je vous dis de quoi vous devez faire attention. Et maintenant, voilà les recommandations aux chrétiens à chacun de nous. Et ce sera la conclusion. À travers Jude, nous voyons que le Seigneur veut qu'on soit libéré de tout ce qui fait l'homme soit au centre. De tout ce qui ne s'appuie pas sur toute la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Du moment qu'on veut mettre de côté quelques passages, là il y a un problème. Que Dieu nous aide à voir clair avec l'appui de son Esprit Saint. Comme le fait Jude à la fin de sa lettre. En effet, Jude encourage les chrétiens en utilisant des expressions qui s'adressent à des chrétiens simples, sincères, responsables et qui sont conscients de leur élection éternelle et qui ne se contentent pas seulement d'être appelés chrétiens. Versets 20 à 25. En résumé. D'abord, il dit à l'Église, il faut l'édification mutuelle. L'édification mutuelle, c'est-à-dire, l'édification, c'est la parole de Dieu. Donc, l'Église, nous, on doit s'édifier autour de la parole. La parole de Dieu doit être le centre. On ne doit pas s'écarter de la parole de Dieu. La parole de Dieu s'explique elle-même. Oui. L'édification mutuelle. Là, vous lirez ça du verset 20 à 25. Il termine. L'édification mutuelle, c'est-à-dire la parole de Dieu au centre de tout ce que nous vivons, nous partageons. Deuxième chose. Il parle de la prière par le Saint-Esprit. Une vie d'église, une vie chrétienne sans prière, il n'y a rien. S'il n'y a pas de vie de prière, non seulement individuelle, mais collective, il n'y a pas de vie d'église, il n'y a pas de vie chrétienne. Voilà ce qu'il dit Jude. Deuxième élément. Le troisième, il parle de la communion fraternelle. J'en ai parlé. S'il n'y a pas de communion fraternelle, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas d'église, donc on n'est rien. Et le quatrième, ayant comme vision la miséricorde divine qui sera manifestée par le retour du Seigneur et son union avec l'Église glorifiée. Il est en train de nous dire, ayez comme vision la rencontre avec le Seigneur lors de son retour. du verset 24, 20 à 25. Voilà ce qu'il dit à l'Église. La parole de Dieu au centre, tout est dedans. Et c'est la parole qui doit vous édifier, éclairée par l'Esprit Saint. La prière par le Saint-Esprit d'une manière individuelle et collective, la communion fraternelle, avoir comme vision la rencontre avec le Seigneur quand il reviendra. Ce sont les éléments qui doivent, dans lesquels nous devons être ancrés. Et c'est ça que Jude appelle des chrétiens appelés et élus. Que Dieu nous aide. Combien il est réconfortant de savoir que les grâces divines nous sont non seulement assurées, mais encore renouvelées chaque jour, si nous vivons et persévérons dans la sainte doctrine. Que Dieu nous aide. Amen.